Bonjour chers amis de Radio Espérance qui nous écoutez ce soir. Nous vous proposons tous les jours, à la même heure, de passer ensemble une demi-heure avec les pères du désert, ces ermites de l'Orient qui vécurent essentiellement en Égypte, en Palestine, en Grèce et dans les pays slaves. Nos premiers pères de l'Église, le tronc commun entre l'Église de Byzance et celle de Rome. Voici quelques lettres, quelques homélies qui, comme vous l'entendrez, attestent d'une profonde clairvoyance sur le chemin qui mène l'âme du monde à Dieu. Chemin truffé de démons charnels et spirituels. Mais chemin conduisant la béatitude de la vision divine, pour peu que l'on s'y abandonne en totale humilité à Dieu Tout-Puissant. L'échelle sainte de Jean Climac. Nous allons vous donner un aperçu des différents degrés de cette échelle qui monte de l'homme à Dieu. Il y a d'abord le renoncement, ensuite le détachement, l'exil volontaire, la bienheureuse et toujours louable obéissance, la pénitence diligente et efficace, la pensée de la mort, l'affliction qui produit la joie, l'absence de colère et la douceur, la chasteté et la continence, la prière, la psalmodie, la veille corporelle, le discernement des pensées, des passions et des vertus, la sainte ésychias du corps et de l'âme, c'est-à-dire le calme parfait, la prière sainte et bienheureuse, mère des vertus, l'impassibilité des passions, la charité, la foi et l'espérance. Nous commençons avec le renoncement. Du renoncement. Par ami de Dieu, vénéré Père, nous entendons, tout ignorant que nous sommes, ces substances intellectuelles et incorporelles qui l'entourent. Ses fidèles serviteurs sont ceux qui font et ont toujours fait sa volonté toute sainte, infatigablement et sans jamais hésiter. Ses serviteurs inutiles sont ceux qui se glorifient d'avoir reçu le divin baptême, mais n'ont pas fidèlement gardé leur engagement envers lui. Nous considérons comme étrangers à Dieu et comme ses ennemis tous ceux que nous voyons vivre sans le baptême ou dans une foi mêlée d'erreur. Enfin, ses adversaires sont ceux qui, non seulement ont repoussé la loi de Dieu et l'ont rejetée loin d'eux, mais combattent avec acharnement ceux qui l'observent. Ceux qui, revêtus d'un corps, ont entrepris l'ascension du ciel, devront nécessairement se faire violence et souffrir sans cesse. Cela, surtout au début de leur renoncement, jusqu'à ce que leur inclination au plaisir et leur cœur insensible se soient changés en une disposition stable d'amour de Dieu et de pureté, grâce à une componction manifeste. Un très grand labeur sera nécessaire, en effet, et beaucoup de peines secrètes, surtout après une vie de négligence, pour que notre intellect, qui ressemble à un chien glouton et hargneux, en vienne, à force de simplicité, de douceur et de zèle, à ne plus aimer que la pureté et la vigilance. Cependant, prenons courage, si dominés par les passions et si faibles que nous soyons, présentons au Christ, avec une foi sans défaillance, notre faiblesse et notre impuissance spirituelle. Confessons-les devant lui, et nous obtiendrons certainement son assistance bien au-delà de ce que nous méritons, pourvu que nous nous abaissions sans cesse jusqu'au fond de l'abîme de l'humilité. Tous ceux qui entreprennent ce bon combat, dur et âpre, et en même temps aisé, doivent savoir qu'il leur faut se jeter dans le feu pour obtenir que le feu immatériel habite en eux. Que chacun donc se mette soi-même à l'épreuve, qu'il mange ce pain avec des herbes amères, et qu'il boive cette coupe avec des larmes, de peur que le combat ne tourne à sa propre condamnation. S'il est vrai que tous ceux qui ont été baptisés ne sont pas sauvés, je veux me taire sur la conséquence que l'on peut en tirer. Ceux qui entreprennent ce combat doivent renoncer à tout, tout mépriser, se rire de tout et tout rejeter, afin de poser un fondement solide. Ce bon fondement est formé d'une triple assise et d'une triple colonne, l'innocence, le jeûne et la tempérance. Tous ceux qui deviennent enfants dans le Christ doivent commencer par là, prenant exemple sur les tout-petits. En eux, on ne trouve ni méchanceté, ni dissimulation, ni avidité insatiable, ni ventre toujours insatisfait, ni feu de luxure, ni ardeur sauvage dans leur corps. Mais assurément, à mesure qu'ils se nourriront davantage, ils grandiront et connaîtront cet incendie. Puisque c'est un Dieu et un roi qui nous appelle à son service, courons avec ardeur. Car nous n'avons en effet que peu de temps à vivre, et nous risquons d'être trouvés sans fruits au jour de notre mort et de périr de faim. Cherchons à satisfaire notre Seigneur comme des soldats leur roi. Car après la fin de la campagne, il sera exigé de nous un compte exact de notre service. Au début de notre renoncement, il nous faut certes beaucoup de labeur et de peine amère pour pratiquer les vertus. Mais quand nous avons fait quelques progrès, nous n'éprouvons plus de peine, ou seulement très peu. Et quand notre mentalité terrestre a été consumée et maîtrisée par notre zèle, nous les pratiquons avec beaucoup de joie, d'élan et d'amour, et avec une flamme divine. courons avec joie et amour au bon combat, sans nous laisser intimider par nos ennemis. Bien qu'invisibles eux-mêmes, ils observent le visage de notre âme. Et s'ils le voient altéré par la frayeur, ils prennent d'autant plus férocement les armes contre nous. Car ces fourbes voient bien si nous avons peur. Prenons donc les armes contre eux avec courage. Aucun d'eux ne s'attaquera à un combattant résolu. Mais on a souvent remarqué que Dieu agit ainsi. Quand il voit des âmes généreuses, il permet qu'elles aient à combattre dès le début, voulant les couronner en peu de temps. Travaillons avec ardeur dans notre jeunesse et courons avec vigilance car l'heure de la mort est incertaine. Nous avons en vérité des ennemis méchants et malveillants, rusés et perfides, puissants qui ne dorment jamais, invisibles et immatériels. Ils tiennent le feu dans leurs mains et s'efforcent d'en incendier le temple de Dieu. Que personne, en sa jeunesse, n'écoute les démons, ses ennemis qui lui disent « N'épuise pas ta chair, de peur de tomber malade, de t'affaiblir. » Vous ne trouverez en effet à peu près personne, surtout parmi la génération actuelle, qui entreprennent de mettre à mort sa chair. À peine se prive-t-on d'une nourriture abondante et agréable. Le but de ce démon est de faire que notre entrée dans le stade soit lâche et pleine de négligence, et de travailler ensuite à ce que la fin réponde au commencement.
Thank you.
du détachement. L'homme qui en est arrivé à détester le monde a échappé à la tristesse. Mais celui qui est attaché à quoi que ce soit de visible n'est pas encore délivré de la tristesse. Car comment ne pas s'attrister si l'on est privé de ce qu'on aime? Veillons sur nous-mêmes pour ne pas nous abuser en croyant suivre la voie étroite et resserrée, alors que nous prenons la voie large et spacieuse. Les signes qui montrent que l'on suit la voie étroite, les voici. Être mortifié dans la nourriture, veiller debout des nuits entières, ne boire de l'eau qu'avec mesure, ne prendre du pain que parcimonieusement, absorber la purifiante potion des humiliations, supporter les sarcasmes, les dérisions, les moqueries, retrancher la volonté propre, endurer les contrariétés, ne point murmurer sous les affronts, ne tenir aucun compte des insultes, supporter courageusement les injustices, ne pas s'indigner sous la calomnie, humilier, ne pas se mettre en colère, rester humble quand on nous condamne. Bienheureux ceux qui suivent cette voie, car le royaume des cieux est à eux. Nul n'entrera couronné dans la céleste chambre nuptiale s'il n'accomplit le premier, le second et le troisième renoncement. Je veux dire, le renoncement à toute affaire, à toute personne, à tout parent. Puis, le retranchement de sa volonté propre. Enfin, le renoncement à la vaine gloire qui accompagne l'obéissance. De l'exil volontaire. L'exil volontaire, c'est l'abandon sans retour de tout ce qui, dans notre patrie, nous empêche d'atteindre le but de la piété. L'exil volontaire, c'est un comportement réservé, une sagesse qui demeure inconnue, une prudence qui ne paraît pas au dehors, une vie cachée, un dessein secret, une pensée que rien ne manifeste, un appétit de l'abjection, une passion pour la gêne, une ferme assise pour le désir de Dieu, une abondance d'amour, un renoncement à la vaine gloire, un abîme de silence. À propos de l'obéissance, le commencement de la mortification tant des membres du corps que des volontés de l'âme est un travail pénible. Le stade intermédiaire, tantôt est pénible, tantôt ce parcours sans peine. Mais la fin est sans aucun mouvement et sans aucun sentiment de peine. Ce bienheureux mort vivant ne ressent de peine et de souffrance que lorsqu'il se surprend à faire sa propre volonté, car il redoute le fardeau de son propre jugement. Les pères enseignent que la psalmodie est une arme, la prière un rempart et les larmes immaculées un bain. Mais la bienheureuse obéissance, ils l'ont assimilée à la confession de la foi. Sans elle, aucun homme sujet aux passions ne verra Dieu. Histoire d'un voleur pénitent. Redoutable fut le jugement prononcé par un excellent juge et pasteur, et dont je fus témoin dans un monastère cénobitique. Il arriva pendant mon séjour qu'un voleur vint demander à être admis à la vie monastique. Cet excellent médecin et pasteur lui ordonna de demeurer pendant 7 jours dans un repos complet, simplement pour observer le genre de vie que l'on pratiquait en ce lieu. La semaine écoulée, le pasteur, l'ayant appelé en particulier, lui demande « Te plairait-il de demeurer avec nous ?» Ayant constaté qu'il acceptait en toute sincérité, il lui demande alors « Quel méfait as-tu commis dans le monde ?» Voyant qu'il avouait tout, aussitôt, de bon cœur, il lui dit pour l'éprouver davantage « Je désire que tu exposes tout ceci en présence de tous les frères. » Comme il détestait sincèrement ses fautes, méprisant toute honte, sans la moindre hésitation, il promit de le faire. « Et même si tu le veux, dit-il, je le ferai en pleine ville d'Alexandrie. » Ensuite, le pasteur rassembla toutes ses brebis raisonnables à l'église, elles étaient au nombre de 230, et pendant la célébration de la divine synaxe, car ce jour était un dimanche, après la lecture de l'Évangile, il fit venir ce criminel innocent, traîné par quelques frères qui lui donnaient des coups modérés. Ses mains étaient liées derrière son dos. Il était revêtu d'un sac de poils, et il avait la tête couverte de cendres. Tous furent frappés de stupeur à ce spectacle et éclatèrent aussitôt en sanglots et en gémissements, car personne ne comprenait ce qui se passait. Et lorsqu'il eut atteint les portes de l'église, ce saint supérieur, ce juge plein d'amour pour les hommes, lui dit d'une voix forte « Arrête, car tu es indigne d'entrer ici. » Frappé de terreur par la voix du pasteur qui lui arrivait du sanctuaire, car il croyait entendre, ainsi qu'il nous l'a affirmé plus tard avec serment, non une voix humaine, mais le tonnerre. Il se prosterna aussitôt la face contre terre, tremblant et tout secoué de frayeur. Tandis qu'il était prosterné et arrosait le sol de ses larmes, cet admirable médecin, qui ne cherchait en tout cela que son salut et désirait procurer à tous un modèle de salutaire et manifeste humilité, lui ordonna à nouveau de dire en détail, en présence de tous, tout ce qu'il avait fait. En frissonnant, il confessa l'un après l'autre tous ses crimes, au grand étonnement de l'auditoire. Non seulement les péchés de la chair, selon la nature ou contre la nature, avec des créatures raisonnables et avec des animaux, mais encore des empoisonnements, des meurtres et beaucoup d'autres choses qu'il ne convient ni d'entendre ni d'écrire. Après cette confession, l'abbé ordonna de le tonsurer aussitôt et de le recevoir au nombre des frères. Admirant la sagesse de ce saint homme, je lui demandai en particulier « Pour quelle raison as-tu fait cette démonstration si extraordinaire ?» À quoi ce vénérable médecin me répondit « Je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, pour délivrer le pénitent lui-même de la honte future par la honte présente, et il en fut vraiment ainsi. Car frère Jean, il n'était pas encore relevé de terre qu'il avait obtenu le pardon de toutes ses fautes. Et n'en doute pas, car un des frères présents m'a fait cette confidence. Il avait vu un homme d'aspect terrible qui tenait à la main une tablette écrite et une plume. Et tandis que celui qui était prosterné avouait ses crimes, l'homme les effaçait de la tablette. Et cela est juste, car il est écrit « J'ai dit, je vais confesser contre moi mon péché au Seigneur. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon cœur. » En second lieu, je l'ai fait, parce que j'ai ici des frères qui ont des fautes non confessées. Je veux par ce moyen les inciter à la confession, sans laquelle nul n'obtiendra le pardon. »